Chapitre 29. Mrs. Winstanley, à l'occasion de son mariage, par la duchesse de Dovedale. Telle était la forme cabalistique, formule de présentation à la cour, que Pamela Winstanley se répétait à elle-même, tandis que sa voiture, à travers le silence des bois sombres, l'emmenait à Ashbourne pour le dîner du dernier jour de l'année. Une petite idée avait pris possession de son petit esprit. La duchesse de Dovedale n'était-elle pas justement la personne qu'il lui fallait pour la présenter à sa gracieuse souveraine lors de la première réception de la saison prochaine? Mrs. Winstanley avait de vieux amis qui la connaissaient depuis son enfance et qui eussent été heureux de remplir cette mission. Le capitaine Winstanley possédait une vieille parente fossile, vivant en ermite à Hampton Court, dont il vantait parfois, assez vaguement du reste, les hautes relations, disant qu'elle serait volontiers sortie de sa retraite aristocratique pour présenter à la reine l'épouse de son parent. Le capitaine lui eut bien confié le noble rôle de chaperon dans cette circonstance solennelle. Mais quelle était la valeur sociale de cette épave préhistorique? Cette lady Suzanne Winstanley, le monde l'ignorait absolument. La duchesse, à la bonne heure! Non, décidément, Mrs. Winstanley pensait que sa présentation par la duchesse de Dovedale était nécessaire à son bonheur. C'est un dîner de 30 couverts, une affaire d'État. Les serres avaient livré leurs fleurs les plus rares et la table ressemblait à une forêt tropicale en miniature. Violette fut conduite à table par Lord Ellangowan. Bonheur inappréciable et peu apprécié, car le noble lord avait peu de choses à tirer de son propre fond, il fallait un grand effort pour lui arracher quelques paroles, et tous ses frais se bornaient à quelques sourires dont la bienveillance ne compensait pas la banalité. Roderick Vaudrey était placé bien loin entre sa fiancée et une vieille douairière énorme, vêtue d'une robe en velours bleu de ciel et étincelante de diamants. Après le dîner, on fit de la musique. Lady Mabel joua un morceau dans le mode mineur, d'une tristesse navrante, et remarquable surtout par la fréquence des modulations. Un gros monsieur chanta un air bouffe italien qui fit éclater de rire toute la compagnie. Une petite jeune fille prodigua les minauderies et les airs de tête dans une romance langoureuse, et enfin Miss Tempest et Lord Mallow chantèrent un duo. Ce fut le succès de la soirée. On leur demanda à plusieurs reprises de recommencer. On ne voulait plus leur laisser quitter le piano. Et avant la fin de la soirée, c'était pour tout le monde un fait acquis, évident, que Miss Tempest et Lord Mallow étaient fiancés. Il n'y avait que des voix d'amoureux pour s'harmoniser ainsi. « Ils ont dû chanter souvent ensemble, » demanda la duchesse à Mrs. Winstanley. « Depuis 15 jours seulement. » Avant cela, Lord Mallow n'était jamais venu chez nous. C'est un ami de mon mari, ils ont été frères d'armes, et voilà longtemps qu'ils se connaissent. Lord Mallow demande tous les soirs à Violette de chanter avec lui, c'est un passionné de musique. « C'est charmant, » murmura la duchesse d'un ton approbateur. Puis elle s'éloigna pour aller éblouir de sa présence un autre groupe d'invités. À 11 heures, on annonça la voiture. Il y avait environ 1 heure que les messieurs avaient quitté la salle à manger, mais le duc insista pour faire rester ses invités jusqu'à minuit. « Il faut que nous finissions l'année ensemble, » dit-il. « La nuit est superbe, et nous pouvons aller au dehors sur la terrasse, d'où nous entendrons les cloches de Ringwood. » Et c'est ainsi que Violette et Lord Mallow furent amenés à chanter plusieurs duos. Ensuite, un jeune écervelé, qui désirait se distinguer, et s'appropriait complaisamment le mot du Don Carlos de Schiller, « J'ai 23 ans et je n'ai rien fait encore pour l'immortalité », récita d'une voix de trompette enrouée et avec des gestes de pèlerin d'Echternach l'adieu de Tennyson à l'année qui s'en va. La longue enfilade des salons aboutissait à une orangerie, solide construction en pierre avec de larges fenêtres donnant sur la terrasse. La nuit était douce comme une nuit de printemps. La lune éclairait la forêt tout en se reflétant dans les eaux claires d'un lac. Ashbourne était située sur une hauteur. De la terrasse, la vue était splendide et réellement magique par ce clair de lune. Les jeunes gens allaient et venaient des salons à l'orangerie et paraissaient très disposés à un peu de flirtation. L'odeur des orangers était pénétrante et les jeunes filles, qui avaient une vague idée de l'allemand, bien que leurs études n'eussent guère dépassé Ollendorf, murmuraient la chanson de Mignon. Les couples plus sérieux se racontaient les détails inédits des derniers scandales, à l'abri de leurs éventails parfumés. Vixen et Rory étaient parmi la jeunesse. Violette avait laissé le piano et Roderick avait rempli ses devoirs de fiancé. Lord Mallow et Lady Mabel s'absorbaient dans les griefs de l'Irlande. Le capitaine Winstanley causait guano avec le duc. Sur la terrasse, Violette et Roderick admiraient la beauté de la nuit. À peine un souffle d'air, on se serait cru en été. Violette était enveloppée de la tête aux pieds dans un chaud manteau blanc que Rory était allé lui chercher. Ainsi vêtue, son aspect était fantastique sous les pâles rayons de la lune. Quoique M. Vaudrey eût paru jusque-là poli et empressé, il semblait maintenant éprouver moins d'enthousiasme depuis qu'il était seul avec elle. Ils firent un tour ou deux dans un silence à peine interrompu par quelques observations sur la beauté de la nuit et du paysage. « C'est le plus beau point de vue de la forêt, » balbutia Vixen qui ne savait que dire. « Vous devez beaucoup aimer Ashbourne. » « Je ne vois pas pourquoi, la vue est certainement superbe, mais la maison est horrible. » Quoiqu'un peu mieux que Briarwood. Combien de temps Lord Mallow séjournera-t-il à l'abbaye ? Violette haussa les épaules avec une expression qui dénotait une extrême indifférence. Mais je n'en sais rien, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas du même avis, répondit Rory. Je trouve que c'est tout à fait votre affaire. Vraiment, répartit Vixen d'un air moqueur. Si le caractère de Rory était exécrable ce soir-là, l'humeur de Violette était loin d'être aimable. « Mais oui, n'êtes-vous pas l'étoile polaire? Votre présence seule lui fait aimer le séjour de l'abbaye. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'il prolonge son séjour? Il est avec nous depuis une vingtaine de jours. Dites depuis un siècle, les doux rêves ne durent pas si longtemps. 15 jours avec vous dans la même maison, vous rencontrant au déjeuner le matin, se promenant avec vous dans l'après-midi, vous accompagnant dans vos courses à cheval, chantant avec vous, s'agenouillant à vos côtés à la prière de la famille, vous quittant à minuit, vous voyant à midi. Pourquoi ne serait-il pas votre mari tout de suite? Il est heureux auprès de vous. Vous avez oublié les heures pendant lesquelles il chasse le faisan ou bien joue au billard. De courts instants de purgatoire qui n'en rendent son paradis que plus beau, riposta Rory. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas mon affaire. Il y a des gens qui vivent pour être heureux, ces créatures naissent sous une bonne étoile. Indubitablement, et parmi ces personnes-là, on doit citer au premier rang M. Vaudrey, qui possède tout ce qu'un homme raisonnable peut désirer. Salomon avait tout cela, et cependant il se plaignait. Oh, il y a toujours des gens qui ne sont jamais satisfaits, il leur faut toujours un sujet de plainte. Écoutez, Rory, dit subitement Vixen, changeant de ton au moment où le son argentin des cloches de Ringwood se faisait entendre. Ne vous fâchez pas, l'année est finie. Rappelez-vous les heureux jours qui ne sont plus. Alors que tous les deux, nous ne songions à la nouvelle année qu'avec joie. La nouvelle année nous apportera-t-elle autant de bonheur que celle qui vient de s'écouler ? Tout émue par ce souvenir du passé, elle avait mis sa main finement gantée sous le bras de son ami d'enfance et s'était rapprochée de lui. Il la regardait, mais ses yeux n'avaient plus de colère. Il n'exprimait qu'une affection profonde, celle d'un frère sans doute pour son unique sœur. Mais n'était-ce que l'affection d'un frère ? Non, enfant, murmura-t-il bien doucement. « L'avenir ne nous donnera jamais autant de bonheur que le passé, chaque année nouvelle nous éloigne du bonheur. Non, enfant, avait dit Rory avec une tendresse dont il ne se rendait pas compte lui-même. Et tandis que cette douce parole enchantait l'oreille de Vixen, le duc continuait sa conversation agricole avec le capitaine Winstanley. « Mon cher monsieur, lui dit-il, d'ici à quelques années, les champs de guano de l'Amérique du Sud seront complètement épuisés. Et qu'adviendra-t-il de nous ? On parle de l'épuisement des mines de houille. Une bagatelle en comparaison, car enfin nos hivers deviennent de plus en plus doux et nos jeunes générations de plus en plus solides grâce au développement de la gymnastique. On peut s'étudier peu à peu à se passer de chauffage. » Et puis, nous avons en Amérique des gisements houillés encore inexplorés. Le bassin du Mississippi est à peine entamé. Et les transports deviennent de plus en plus faciles. Mais le guano, cher monsieur, le guano! Avez-vous jamais réfléchi au danger dont la civilisation est menacée par l'épuisement de ce précieux engrais? Nos herbages, nos navets, nos céréales, compromis, perdus! Plus de couronne pour nos deux hams dans les concours de bétail. C'est affreux à penser. » Cependant, Vixen et Rory étaient arrivés au bout de la terrasse, loin des fenêtres de l'orangerie où s'étaient groupés les convives de la duchesse. Éloignés de tout le monde, les deux jeunes gens se donnaient silencieusement le bras, regardant, rêveurs, à travers l'espace. Là-bas se dresse le vieux manoir de Moyle's Court, où la noble Alice Lyle recueillit les fugitifs de Sedgemoor, acte d'humanité que plus tard elle devait payer de sa vie. Plus loin, sur les bords de l'Avon, est le paisible cimetière où repose la douce victime du sanguinaire Jeffrey. Toutes ces choses étaient si familières à Vixen qu'il lui semblait les voir à travers l'ombre mystérieuse de la nuit. « Mais, répondait le capitaine au duc, croyez-vous réellement que pareille calamité soit probable ?»« Probable, monsieur, dites inévitable. En 1868, on évaluait à 6 millions de tonnes le stock de guano des îles Chincha. Déjà, l'exportation en a pris 400 000 tonnes par an. La date de l'épuisement est irrévocablement fixée à l'année 1888. Et quand l'Angleterre en sera là, s'en sera fait de notre gloire comme éleveur de bétail. » Peut-être, insinua timidement le capitaine, peut-être la chimie aura-t-elle découvert avant cette date fatale quelque nouvel engrais. Monsieur, répartit le duc avec sévérité, les découvertes de la science moderne sont plus chimériques que pratiques. Vos savants du jour sont capables de tout, depuis la liquéfaction de l'oxygène jusqu'à l'emploi de la lumière électrique pour l'éclairage des grandes villes. Capables de tout, oui, sauf de rien qui puisse ajouter au volume ou à la succulence de mes navets. Voulez-vous que je vous dise, Virgile en savait plus long en agriculture que tous vos chimistes d'à présent. Les cloches de Ringwood continuaient leur mystérieux tintement. Rory et Vixen se souvenaient. La jeune fille était tremblante et muette. Le jeune homme vit des larmes couler le long de ses joues pâles. Et pourtant, il ne lui offrit pas un mot de consolation, il savait qu'elle pensait à son père. « Le cher baronnet, murmura-t-il gentiment après quelques instants de silence, comme il était bon pour moi et comme je l'aimais. » Vixen lui serra affectueusement le bras. « Grâce à Dieu, « quelqu'un se souvient de lui avec moi !» s'écria-t-elle. Puis, vivement, elle sécha ses larmes en voyant venir Lord Mallow et Lady Mabel. La conversation du noble lord était beaucoup plus fournie que celle de M. Vaudrey. Il avait de la lecture. Les sujets ne lui manquaient pas, il n'avait que l'embarras du choix et pouvait suivre Lady Mabel dans les sphères élevées. Les sciences, la littérature, la politique lui étaient familières. Il avait orné son esprit de tout ce qu'un homme doit avoir au moins l'air de connaître pour faire son chemin dans le monde parlementaire. « Où vous cachez-vous donc tous les deux depuis une demi-heure ?» demanda Lady Mabel. « On vous cherche pour le quatuor vocal, soufflé d'où se brise. Je sais que vous faites très bien la basse quand vous voulez, Rory. » « Regardez, la voile légère se gonfle, » chanta Rory de sa voix la plus profonde. « Oui, à la rigueur, je puis chanter cela. Vous êtes folle de musique ce soir, Mabel. L'année s'éteint comme le cygne dans une chanson. Rory et Violette se donnent le bras un peu trop comme deux fiancées, pensa Lady Mabel, à laquelle leur attitude ne paraissait pas de bon goût. Du moins, n'était-elle pas du goût de Lady Mabel, qui avait un code de savoir-vivre d'une rigidité draconienne. Les cloches sonnèrent une fois encore. « La nouvelle année est commencée !» cria le duc. « Donnons-nous une amicale poignée de main à la mode allemande. » Là-dessus, ce fut un shake-hands général. Les jeunes gens n'en finissaient pas, surtout avec les jeunes filles. Lord Mallow ne paraissait pas disposé à lâcher la main de Violette. « Salut à la première année que nous nous souhaitons, » dit-il doucement. « Espérons que ce ne sera pas la dernière. »« Je sens que ce ne peut pas être, que ce ne sera pas la dernière. »« Vous voyez plus loin que moi, alors, » répondit Vixen froidement. « Car mes pressentiments ne me disent rien sur l'avenir, si ce n'est, ajouta-t-elle en souriant, que vous serez bon pour Bullfinch. »« Si j'étais empereur, j'en ferais un consul, » répondit l'Irlandais. Il était arrivé à séparer Roderick et Vixen. Le jeune homme, retournant à ses devoirs, accompagnait Lady Mabel au salon. Le froid commençait à se faire sentir et chacun se dirigea vers les voitures rangées devant le perron. Rory et Vixen ne se revirent plus ce soir-là. Lord Mallow l'accompagna à sa voiture, prit place en face d'elle et causa tout le long de la route. Le capitaine fumait un cigare sur le siège et Mrs. Winstanley sommeillait tranquillement. Je dois, je crois, être satisfaite de Théodore, avait-elle dit en s'enfonçant dans sa voiture. Ma toilette n'était pas mal, n'est-ce pas, Violette ? Elle était très jolie, maman, vous devez être contente. Sur quoi la mère poussa un soupir de satisfaction et s'endormit. Il suivait la route qui traverse le centre de la forêt, l'aspect de la campagne avait quelque chose de fantastique. Les arbres prenaient des formes singulières, les grands chênes ressemblaient à des fantômes, et les lièvres qui fuyaient çà et là donnaient vaguement l'idée de ces farfadets qui, la nuit, envahissent les landes solitaires, mais pour s'évanouir à l'approche de l'homme. Violette, enveloppée de fourrure, regardait la route avec autant d'intérêt que si elle ne l'eût jamais aperçue. La vue de cette splendide nature ne la fatiguait jamais. « Quelle délicieuse soirée, ne trouvez-vous pas ?» questionna Lord Mallow. « Je l'ai trouvée charmante, » répondit Violette froidement. « Mais je ne puis faire de comparaison, c'est la première fois que je dîne à Ashbourne. »« Quelle jeune fille intelligente et instruite que Lady Mabel. Monsieur Vaudrey doit s'estimer très heureux. »« Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il ne s'estima pas heureux. »« Naturellement, mais il me semble qu'il pourrait être un peu plus enthousiasmé. » Je n'ai jamais vu d'amoureux aussi froid. Vous le jugez peut-être d'après les amoureux irlandais. Votre nation est plus démonstrative que la nôtre. Une jeune Irlandaise refuserait un homme comme M. Vaudrey. Mais il se peut que je le juge mal. Vous en savez plus que moi sur son compte. Vous le connaissez depuis que je suis née, répondit Violette avec simplicité. Je sais qu'il est bon, fidèle et sincère. Qu'il honorait sa mère et qu'il sera un bon mari pour Lady Mabel Ashbourne. Peut-être que, si elle était un peu moins savante et un peu plus femme, il serait plus heureux avec elle, mais tout s'arrangera plus tard probablement. « Je le souhaite, » répondit Lord Mallow. « Nous aurons beau temps jusqu'à la nouvelle lune, je crois. Voulez-vous demain faire une promenade à cheval, comme celle que nous avons déjà faite une fois ?» « Lorsque je vous ai conduit au bout du monde, » demanda Vixen en riant, « je m'étonne qu'après cette promenade, vous ayez encore confiance en moi. Si cela convient au capitaine Winstanley, je veux bien, demain, vous servir de guide. »« Le capitaine Winstanley le voudra bien, » j'en réponds, « je lui rendrai la vie insupportable s'il faisait mine de refuser. »